Chapitre 43. Charles déplie la pochette et en extrait délicatement une clé de la longueur de son index. Voici la clé qui se trouvait dans le coffret que nous avons déterré, explique-t-il. Le récit rapporté par Ignace de Loyola évoque, et bien à plusieurs reprises, l'existence d'un lieu souterrain secret. L'accès en serait protégé par une sorte de labyrinthe qu'il nomme le Dédale, auquel il serait impossible de survivre si l'on n'en possède pas les arcanes. Il tend l'objet à Vincent qui s'en saisit délicatement. Cette clé ouvrirait-elle ce Dédale? Loyola n'en dit rien, précise Charles. Pourtant, cela paraît très logique. Levant l'objet à hauteur de ses yeux, Cavell l'étudie minutieusement. Très belle pièce, apprécie-t-il, remarquablement ouvragée. Au bout de la tige, l'anneau que l'on doit tenir pour la faire tourner est un petit disque plein, large d'un pouce et finement gravé. La jonction avec la tige est percée d'un minuscule trou de part en part, et le paneton destiné à actionner le mécanisme de la serrure est fendu d'une croix pâtée. Vincent la soupèse et s'étonne aussitôt. Elle est dense. Elle brille comme de l'argent, mais ce n'en est pas. Sans doute du fer massif, poli. Surprenant. Il teste le métal en le grattant de l'ongle. Malgré la sophistication de sa réalisation, il n'y a aucun ornement précieux. Je me suis fait la même réflexion en la découvrant, acquiesce Charles. Le plus simple des métaux, mise en forme de la façon la plus soignée qui soit. En général, des pièces de cette qualité sont dorées ou agrémentées de joyaux. Ne trouvez-vous pas étrange qu'après des siècles dans une boîte sous terre, elle ne soit pas piquée de rouille ? Questionne Vincent. Elle ne bénéficie pourtant d'aucun apprêt. Peut-être est-elle protégée d'une façon que nous ignorons ? Un alliage inconnu ? Le talent de l'orfèvre s'est en tout cas particulièrement concentré sur la gravure de ces symboles entrelacés. Vincent s'approche d'un chandelier et place la petite clé dans la lumière. Leur imbrication est d'une précision extrême. L'harmonie de l'ensemble ne gêne pas la distinction de chacun des différents éléments. C'est à n'en pas douter l'œuvre d'un véritable artiste. Il plisse les yeux pour mieux voir. Je distingue plusieurs types d'alphabets associés dans les ornements. Je l'ai noté également. On dirait que les caractères sont issus de différentes cultures, du latin, de l'hébreu, de l'arabe, même des runes, ce qui ressemble à un hiéroglyphe, et d'autres que je n'ai jamais vus. Il me faudrait une loupe, tellement la gravure est fine. Vous ne remarquez rien d'autre ? Vincent fait pivoter la clé sous différents angles. Le métal poli renvoie des éclats lumineux argentés. Que suis-je censé voir ?
Rien.
Justement, répond Charles. J'ai été surpris que cette clé ne porte pas la moindre trace de rayure. Son polissage est parfait, jusqu'au paneton, pourtant supposé avoir une action mécanique. Comme si elle n'avait jamais été utilisée. Vincent passe son doigt sur l'extrémité et l'examine de très près.
Exact. Intriguant, en effet.
Vous êtes bien placé pour savoir qu'aucun artisan, surtout capable d'une réalisation de ce niveau, ne prendrait le risque de ne pas la tester au moins une fois dans la serrure qu'elle est censée ouvrir.
Tout à fait juste.
Or, il n'y a effectivement aucune altération de la surface. Le témoignage du descendant des Templiers fait mention de 4 entrées qui permettent d'accéder au Dédale. Il les associe aux 4 éléments de la création. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Chacun de ces accès serait dissimulé quelque part dans Paris. Le rapprochement des constituants mystiques évoque les fondements de la magie antique. Il tourne et retourne une fois encore la clé à la lumière de cette information, mais celle-ci garde son mystère. Si les dangers du dédale s'avèrent aussi redoutables que ce qu'affirme la confession, souffle Adinson, alors nous n'aurons pas le droit à l'erreur.